RCF.
L'Hebdo Région, le magazine d'information proposé par les rédactions de vos radios chrétiennes en Pays de la Loire.
Et bonjour à toutes et à tous, bienvenue si vous nous rejoignez. À un mois tout juste du premier tour des élections présidentielles, focus sur une thématique qui passe au second plan dans les débats politiques. D'après un récent sondage, l'environnement figure au sixième rang des priorités des candidats. Et pourtant les enjeux sont considérables selon Florence Denier-Pasquier de France Nature Environnement, vous l'entendrez. Il a fait de la persécution des chrétiens d'Orient son principal combat. Le père Jacques Mourad, lui-même otage de Daesh en Syrie, est venu témoigner au Mans cette semaine. Aubery Métro l'a rencontré à cette occasion. Entretien poignant à suivre. Ils vont intégrer le marché du travail après avoir suivi une formation originale. Encadrée par le club de rugby d'Angers, une vingtaine de jeunes au chômage a obtenu en quelques mois seulement une promesse d'emploi. Dans ce magazine, nous ferons un premier bilan de cette initiative. La 8e édition du Vendée Globe s'est clôturée il y a 2 semaines avec l'arrivée du dernier skipper, Sébastien Destremo. Les organisateurs ont déjà la tête à la préparation de la prochaine course dans 4 ans. Une course qu'ils souhaitent professionnaliser. Plus de détails dans une quinzaine de minutes. Enfin, côté sortie, nous vous proposerons un détour par la Mayenne et les grottes de Sauges. C'est bien dans ce lieu atypique qu'un musée de la préhistoire a ouvert ses portes. Y sont exposées des pièces découvertes sur notre territoire et datant du paléolithique et du néolithique. Voilà ce qui vous attend dans cette hebdo région présentée par la rédaction de RCF Anjou en collaboration avec les autres radios chrétiennes des Pays de la Loire.
En route vers les présidentielles.
Dans un mois tout pile, les citoyens français voteront donc pour le premier tour des élections présidentielles. Dans ce contexte, nous donnons la parole chaque semaine à une personne de la société civile pour débattre des enjeux de la campagne. Aujourd'hui, c'est Florence Denier-Pasquier, à la fois secrétaire nationale de la FNE, France Nature Environnement, et vice-présidente de la sauvegarde de l'Anjou qui s'exprime. Si l'emploi, la sécurité ou l'immigration sont des sujets régulièrement abordés lors de cette campagne, les problématiques environnementales lui paraissent en revanche relégué au second plan.
Tel que la campagne se mène aujourd'hui, on peine à faire émerger les sujets environnementaux dans leur plénitude. On arrive à peu près à parler de transition énergétique, etc. Mais des sujets comme la nature, la biodiversité, l'enjeu de la qualité de l'eau, les liens entre santé et environnement, alors que c'est une forte attente des Français, sont souvent relégués. Le grand débat de lundi dernier l'a montré. Hein, on a eu 2 minutes avant la pub. Mince, on a cru qu'on allait en parler, mais ça a été trop rapide pour aborder vraiment les enjeux principaux. Donc c'est clair que c'est encore quelque chose qui est trop relégué et surtout les solutions ne sont pas assez affinées par les politiques. Ils ont apparemment du mal à voir le projet de société qui est derrière les enjeux environnementaux, qui est un projet du mieux vivre ensemble, de vivre dans un monde qui nous protège, où on trouve des solutions au gaspillage, un monde où on respecte le vivant. Ces enjeux-là, qui avaient été si bien énoncés par le pape François dans l'encyclique Laudato Si, on voit que nos politiques ne l'ont pas lu, mais ils ne s'approprient pas cette transformation de la société qu'exigent les enjeux environnementaux.
Et Florence Denier-Pasquier attend donc forcément beaucoup du prochain gouvernement. Avec son association apolitique, elle a souhaité participer au débat en proposant aux candidats divers engagements en faveur de l'environnement et de l'humain.
Par exemple, le droit du citoyen à être informé, et que la présence de perturbateurs endocriniens dans les produits de consommation courante, comme les cosmétiques, les aliments et les détergents, soit affichée en tant que telle, parce qu'il y a un droit à l'information.
Sur l'étiquette du produit.
Sur l'étiquette du produit. On les connaît, on sait les classer au niveau de leurs impacts sur la santé, et bien il doit y avoir un droit à l'information. De même, pour les produits, la viande, indiquer non seulement les conditions d'élevage, mais aussi celles de la rémunération des agriculteurs qui l'ont produit. Parce qu'on ne dissocie pas l'homme et son environnement. Et il n'y a pas de qualité de vie des animaux sans qualité des vies des personnes qui s'occupent de ces animaux. Dans le même ordre d'idée, on est pour la réduction de moitié de l'utilisation des pesticides d'ici 2025. C'est possible en développant l'agriculture bio, mais aussi dans l'agriculture conventionnelle. Il y a des chercheurs de l'INRA qui viennent de montrer qu'il était tout à fait possible de réduire de 30% l'utilisation des pesticides sans perte de rendement. Il y a des fermes défis qui existent sur nos territoires qui le démontrent. Maintenant, comment on passe à la vitesse supérieure? On a un enjeu sur la qualité des eaux. En Pays de Loire, il n'y a que 11% des eaux qui sont en bon état. On a un enjeu sur la consommation, sortir de la culture du déchet. Par exemple, nous, on propose que les pièces détachées soient trouvables pendant 10 ans pour réparer plutôt que jeter.
Et lorsqu'on lui demande de se mettre à la place du futur président de la République et de nous donner sa première grande mesure, elle répond « la refonte du système d'aide à la rénovation énergétique des bâtiments ».
Il y a 12,5 millions de Français qui souffrent de précarité énergétique. Beaucoup trop de logements consomment trop d'énergie. C'est un levier pour réussir cette transition énergétique. Mais comment on aide les personnes qui n'ont pas les moyens ? Qui sont doublement pénalisées, hein, c'est-à-dire qu'elles ne peuvent pas se chauffer, par exemple, comme elles le souhaitent, mais elles n'ont pas les moyens de rénover leur logement. Alors, derrière ces enjeux-là, nous, on travaille avec des associations d'entraide aussi là-dessus, c'est quand même simplifier, largement simplifier l'accès aux aides. Il existe des aides, mais elles sont trop éparpillées, il manque d'un guichet unique, les renforcer, aider à une rénovation complète, parce que souvent, on fait, par manque de moyens, un petit bout d'isolation par-ci, un changement de chaudière par-là. Parfois, il vaut mieux vraiment investir sur la rénovation et donc avoir des chantiers plus conséquents, mais avec des aides publiques qui s'adressent en priorité aux ménages les moins aisés. Donc ça, ça se repense et ça se repense globalement et non pas de façon éparpillée comme cela s'est fait depuis plusieurs années.
Et des propos de Florence Denis-Pasquier, secrétaire nationale de la FNE. Dans le reste de l'actualité de la semaine, toujours en politique, Yannick Moreau, le député Les Républicains des Sables-d'Olonne, a annoncé mardi qu'il ne briguera pas de second mandat. Il était pourtant déjà investi par son parti, mais il a indiqué dernièrement qu'il souhaitait finalement se consacrer à ses nouvelles fonctions de président de l'agglomération des Sables-d'Olonne, un poste qu'il occupe depuis le début de l'année. Et puis 3 mois après la fin de l'opération, les résultats officiels du Téléthon 2016 ont été dévoilés. Au total, 5,5 millions d'euros ont été recueillis en Pays de la Loire, plus de 2 millions en Loire-Atlantique, plus d'un million en Vendée et en Maine-et-Loire et environ 600 000 euros du côté de la Sarthe.
L'Hebdo-Région, pause spirituelle.
Et la pause spi nous emmène cette semaine en Sarthe, justement. Bonjour Aubery Métro.
Bonjour Bastien.
Vous avez rencontré il y a quelques jours le père Jacques Mourad, le religieux syrien était en visite au Mans. Il est venu témoigner de son parcours tout simplement bouleversant.
Ah oui, sa vie bascule le 21 mai 2015. Le père Jacques dort tranquillement dans le monastère de la ville d'Arkayaten, dans le sud du pays, c'est près de Palmyre, quand 3 hommes entrent dans sa chambre.
Un groupe de djihadistes qui ont été entrés au monastère de Marliane, qui m'ont porté à Raqqa. Et on est resté 3 mois là-bas. Après, il nous a transférés à Palmyre. Au moment qu'ils ont pris le Qaryatayn, ils ont pris en otage 250 chrétiens. Alors, il nous a mis avec eux.
Et c'est le regard baissé qu'il évoque sa captivité. Le père Jacques a été retenu en tout pendant près de 5 mois.
Et comment s'est passée sa détention ?
Eh bien, il n'y a pas eu de sévices physiques, mais par contre, psychologiquement, ça a été très compliqué, car chaque jour, les djihadistes l'ont menacé de le décapiter s'il refusait de se convertir à l'islam.
Cet appel à la conversion à l'islam ou mourir, c'était pas compliqué de choisir. De mourir parce que je ne suis pas le premier, je ne suis pas le dernier, hein, je suis rien devant des milliers de personnes qui ont été martyrisées pour leur foi chrétienne.
Et après la prise de Palmyre, le chef de l'État islamique, Abou Bakr el-Baghdadi, décide finalement de ramener le père Jacques et 250 autres otages à El Karyatem.
Et à ce moment-là, est-ce que les chrétiens sont de nouveau considérés comme libres ?
Eh bien, pas vraiment, parce qu'ils sont sans arrêt surveillés par les djihadistes. Ils ne peuvent pas quitter le village.
J'ai découvert qu'il n'y a pas d'espérance de vivre dans une région de l'État islamique. Sous cet régime qui nous considère comme deuxième degré, troisième degré, on n'est pas des êtres humains devant eux. J'ai décidé de fuir pour trouver un moyen pour sauver la vie de toute ma paroisse, toutes mes communautés.
Et le père Jacques rejoint alors Homs, d'où il organise la fuite des 200 chrétiens.
Et comment il s'y est pris, concrètement ?
Eh bien, les femmes ont été voilées, elles ont été accompagnées par des musulmans hors de la ville. Les hommes, eux, ont pris place par petits groupes au milieu de moutons dans un camion prêté par un berger berbère.
Ils ont risqué, bien sûr, leur vie. Il y a 6 qui ont été massacrés à cause qu'ils ont aidé les chrétiens à s'échapper.
Alors aujourd'hui, le père Jacques veut rendre grâce aux musulmans syriens. Il demande aux Européens de les accueillir dans la dignité.
Le peuple syrien, ils ne sont que des victimes de cette guerre. Avec cette guerre, on a perdu le sens de la vie.
Et les paroissiens du Père Jacques, quant à eux, sont maintenant en sécurité près de Homs.
Mais le religieux, lui, a décidé de ne plus vivre en Syrie, Aubery.
Et oui, il s'est installé au Kurdistan irakien, dans des camps, au plus près des réfugiés.
Il vit dans des états terribles, malgré tous les soutiens de Nations Unies, de communautés européennes, de tous les ONG. Mais ça n'enlève pas que ces gens, ils vivent dans la misère. Ça suffit. Il faut que le monde le sache et que l'Europe, elle s'engage de plus en plus pour sauver ces gens et ces familles et ces enfants. Ou bien, s'ils ne veulent pas recevoir les réfugiés syriens, qu'il s'engage pour arrêter la guerre.
Le Père Jacques continue donc de sillonner l'Europe pour alerter le grand public sur la situation en Syrie. Un livre qui va retracer sa vie, son parcours et ses combats est actuellement en préparation.
Et on ne manquera évidemment pas de vous en reparler sur vos radios chrétiennes. Merci, Aubery.
L'Hebdo-Région, initiative.
Leur formation touche à sa fin. Depuis 4 mois maintenant, une vingtaine de jeunes angevins suivaient un cursus original dans le but de s'insérer durablement sur le marché du travail. Un accompagnement proposé non pas par Pôle emploi, mais par le club de rugby local, le SCO d'Angers. Et l'expérience semble avoir porté ses fruits, Maria Goyer.
Et oui, l'opération baptisée « Un essai transformé pour l'emploi » s'est déroulée en deux temps. D'abord, la sélection de jeunes issus de quartiers prioritaires en décembre, puis la formation à partir de janvier. Sur la centaine de candidats au départ, une vingtaine a pu bénéficier du dispositif. Cette année, c'est le cas de Quentin, il a 28 ans. Lui peinait à trouver une certaine stabilité sur le marché de l'emploi.
Alors, diplôme, j'en ai pas. Par contre, j'ai toujours plus ou moins travaillé dans le bâtiment. J'avais commencé par un BEP froid et climatisation que je n'ai pas eu du coup. Ensuite, j'ai vécu de petits boulots. J'ai fait de la maçonnerie, j'ai fait un peu de peinture, j'ai fait un petit peu d'électricité et j'ai fait aussi des travaux publics. Et vu que moi, j'en avais plus ou moins marre de faire des petits boulots et que je cherchais la stabilité, j'ai voulu tenter le coup.
Tu as eu l'occasion de faire des stages, de rentrer en entreprise ?
Oui, on a fait 2 semaines de stage qui se sont très très bien passées pour moi. Et aujourd'hui, je sais qu'avec l'entreprise, je suis allé voir mon patron ce matin, il était prêt à me prendre en contrat pro. C'est une super nouvelle, je suis assez content.
C'est quelle entreprise ?
C'est l'entreprise Beaugendre. C'est de la plomberie.
C'est un domaine que tu connaissais ?
Vu que j'ai commencé par la climatisation et que c'est travailler le cuivre aussi, et ensuite, en allant dans le bâtiment, j'ai découvert la plomberie, ça m'a attiré. Et du coup, je m'y suis intéressé comme ça.
À côté de l'entreprise, il y avait quand même des cours, du sport. Qu'est-ce que tu retiens, toi, de cette formation, de ce cursus ?
Que du positif. Les cours, ça m'a permis de corriger mes lacunes, notamment les mathématiques. Ça m'a aussi permis de récupérer les bases de français, parce que j'avais des petites fautes de grammaire, rien de bien grave. Mais au moins, je suis au clair là-dessus. Et le sport, ça m'a permis justement de reprendre une activité sportive que je n'avais plus, du coup, avec les petits boulots et tout, et de rencontrer de nouvelles personnes.
Vous l'aurez compris, le dispositif mêlait donc la révision de compétences clés, mathématiques, français, informatique et l'initiation au sport collectif. C'est là que le SCO Rugby intervient. Ces éducateurs ont travaillé avec des jeunes sur les valeurs du sport, l'hygiène de vie, mais pas seulement. Le club avait également en charge la partie emploi, préparation aux entretiens, aide à la création des CV et surtout trouver pour chaque candidat un stage en entreprise grâce au réseau du club. Ima, 20 ans, témoigne de son expérience.
Moi, j'ai eu la chance de pouvoir intégrer pendant 2 semaines le magasin Intersport de l'Atoll, qui me plaît énormément parce que j'aime beaucoup le sport. Et du coup, c'est vrai que pour moi, c'est super. J'ai une opportunité de pouvoir faire mon BTS là-bas, même si c'est pas encore sûr pour la rentrée prochaine. Donc, c'est des personnes avec qui j'en ai déjà parlé et qui sont pas contre pour le moment. Et si ça se fait pas avec cette entreprise-là, je sais que Patrice et le réseau du SCO sont prêts à nous aider, à nous accompagner jusqu'en septembre après pour pouvoir aboutir à quelque chose. C'est une grande avancée par rapport à si j'avais tout fait toute seule, quoi. J'aurais peut-être pas forcément trouvé cette entreprise-là qui me convient.
Au final, l'opération est un succès. La formation devait se conclure avec l'accès à l'emploi durable d'au moins 80% des jeunes. L'objectif est atteint selon Patrice Lebert, dirigeant du SCO Rugby.
Un peu plus de la moitié du groupe a une promesse que j'estime verrouillée, enfin, claire. Un troisième quart donc a de très bonnes perspectives, mais à confirmer. Et puis on en a un quart pour lequel on est encore en recherche et pour lequel c'est pas le réseau du club forcément qui trouvera la solution, mais il faudra faire une recherche d'emploi plus traditionnelle. Mais on sera là pour les accompagner.
Mais globalement, vous n'êtes pas trompé sur les jeunes que vous avez encadrés.
Vous connaissez la loi presque universelle des 80-20. On est pile poil dans cette configuration-là, avec effectivement un petit 20% de jeunes qui ont révélé leur fragilité ou leur pour certains aussi un peu d'immaturité. Et pour eux, ce sera peut-être un peu plus dur. Mais on est dans ces 80-20. Pour 80% du groupe, on était pile poil dans la cible. C'est-à-dire des jeunes volontaires, dynamiques, avec des savoir-être acquis, qui manquaient de la relation, du capital relationnel pour trouver l'emploi. L'employeur.
Il faut dire qu'il y en a quelques-uns qui font déjà plus partie du groupe parce qu'ils ont trouvé un emploi.
Oui, il y en a trois qui n'auront même pas terminé la formation puisqu'ils sont déjà en emploi. Ouais. Contrat de travail signé. Le premier CDI, c'est une jeune femme donc du groupe qui est assistante marketing. Le deuxième, qui est en contrat pro long, antichambre d'un CDI, c'est dans la logistique. C'est une maison d'édition dans la partie logistique, expédition des ouvrages qu'ils éditent. Et la troisième, c'est dans la grande distribution, comme hôtesse de caisse.
Fort de ce succès, le club de rugby du SCO d'Angers envisage déjà de renouveler l'expérience, Bastien.
Et avec peut-être quelques ajustements, pour être totalement transparent, Patrice Lebert nous a indiqué qu'il observait un absentéisme croissant sur la fin de la formation. Plusieurs jeunes avec une promesse d'embauche considérant que l'objectif était atteint. Merci Maria Goyer, on passe à la suite.
L'Hebdo-Région, rencontre avec...
Et bonjour Fanny Brevet.
Bonjour Bastien, bonjour à tous.
Alors aujourd'hui, rencontre avec deux acteurs du Vendée Globe. 15 jours après l'arrivée du dernier skipper de la 8e édition, c'est déjà l'heure des bilans, Fanny.
Et oui, tout d'abord un bilan sportif indéniable avec un grand nombre de records de vitesse sur l'eau battus, mais aussi un bilan médiatique exceptionnel. Les organisateurs ont constaté une explosion du bruit médiatique de plus de 20% par rapport à la précédente édition. Chaque Français a été atteint 74 fois par le Vendée Globe à travers les différents médias durant toute la course. 45 000 sujets, tous médias confondus, ont été recensés, dont 36% de sujets télé, 22% pour la presse écrite, 19% sur le web, 8% en radio et 15% sur les réseaux sociaux.
Et c'est d'ailleurs ce nouveau média Fanny qui a connu la progression la plus importante.
Ah oui Bastien, 264 000 fans sur Facebook, ce qui équivaut à plus 350% par rapport à 2012. Explosion aussi des retombées télé, 1236 heures de diffusion contre 738 en 2012, 631 heures de diffusion à l'international. Et ce Vendée Globe, c'est également un très large succès populaire avec 2 250 000 personnes présentes au Sable d'Olonne durant le départ et les arrivées.
Alors, et le prochain Vendée Globe devra, on l'imagine, faire encore mieux. D'ailleurs, les organisateurs y pensent déjà, la réflexion a commencé.
Oui, suite à la polémique provoquée par le skipper Jean Lecam concernant la présence de skippers plus aventuriers que compétiteurs, la question se pose, faut-il professionnaliser le plateau sportif du Vendée Globe 2020 ? Nous avons posé la question au directeur de course Jacques Carès.
Il faut avoir la place pour un mélange de genres. Cela dit, il faut que ça reste une course. C'est surtout ça qui est important. Parce qu'on peut avoir des amateurs très éclairés qui sont même parfois devant des professionnels. Ça existe. Donc le mot professionnalisme, il est assez large. C'est vrai que quand on se lance dans un Vendée Globe, c'est quand même une course extrême. On est obligé de se préparer durement. On peut pas se qualifier non plus trop facilement. Peut-être qu'il va falloir un petit peu durcir les qualifications. C'est possible. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que c'est une course qui doit rester ouverte à un mélange de genres. Et par contre, on a intérêt à poser le curseur au bon endroit. C'est surtout ça qu'il faut faire. Et essayer de rassembler des bateaux assez homogènes. Et c'est parfois la difficulté de la classe IMOCA. C'est vrai que sur cette édition-ci, il y avait quand même des bateaux qui avaient une différence d'âge de pas loin de 20 ans. Donc beaucoup pour la même course. Mais cela dit, terminer sa course, c'est quelque chose de très respectable et c'est important d'être tolérant et d'avouer que faire un tour du monde sans escale et sans assistance, c'est déjà un exploit.
Et Yves Auvinet, président du conseil départemental de la Vendée et président de la SEM Vendée, la société d'économie mixte organisatrice de la course, n'exclut pas l'idée d'un durcissement de la qualification pour le Vendée Globe, mais n'admet pas le terme de professionnalisation.
Ça, ce sont des éléments techniques que nous discuterons en temps et en heure. J'ai mon idée là-dessus, mais vous allez me permettre de les garder pour moi pour l'instant, pour préparer sereinement 2020.
On peut avoir une idée quand même.
Je n'admets pas trop, je le dis aussi très simplement, le mot manque de professionnalisme a l'air d'être un mot qu'on emploie sur l'ensemble de l'organisation. Je peux vous dire qu'il y a des gens qui travaillent derrière, beaucoup de monde qui travaille derrière pour que ça soit quelque chose de réussi. Et je pense qu'il y a du professionnalisme. On peut toujours faire mieux. on fera peut-être mieux de ce côté, puis on n'aura peut-être pas un Vendée Globe 2020-2021 avec autant d'éclat que celui qu'on vient de vivre. Donc prenons le temps d'analyser, restons sereins, et les choses viendront tranquillement, dans la mesure où je ne change pas l'équipe non plus du Vendée et de la SEM, c'est important aussi, parce que d'habitude, il y avait toujours un peu un no match land. Là, la directrice reste en place, ce qui est important pour que le lien se fasse et qu'on prépare les choses sereinement.
L'équipe de la SEM Vendée reste donc la même que cette année. Jacques Carrez fera-t-il partie de l'aventure? Peut-être. Ce qui est sûr, c'est qu'il sera candidat à l'appel d'offres pour ce poste de directeur de course. Et ce 8e Vendée Globe n'est pas tout à fait terminé. Rendez-vous le 13 mai prochain au Sable d'Olonne pour la remise des prix officiels à 19h45 aux Atlantes. Un défilé des skippers sur le remblai est prévu aussi pour terminer sur un feu d'artifice au-dessus de la baie à partir de 21h30.
Merci Fanny. Puis je vous rappelle que vous pourrez prochainement entendre sur nos ondes le skipper segréen Fabrice Amédéo. Il sera le grand invité de RCF Anjou au mois d'avril. Ce sera l'occasion de revenir avec lui sur son aventure. Encore 5 minutes à passer ensemble. Dernière partie de cette hebdo-région, la sortie de la semaine.
L'hebdo-région, si on sortait.
Et si vous êtes intéressé par le paléolithique, vous vous êtes déjà peut-être arrêté dans le Périgord pour visiter les grottes de Lascaux. Mais savez-vous que dans les Pays de la Loire, eh bien, on dispose également d'un site préhistorique exceptionnel. Il est situé à Sauges, à l'est de Laval, en Mayenne. Sur place, un musée de la préhistoire vient d'ailleurs d'ouvrir ses portes, Samuel Pécaud.
Et oui, Bastien, c'était samedi dernier l'ouverture. Et effectivement, je suis sûr que beaucoup de ceux qui nous écoutent aujourd'hui ne savaient pas qu'on a en Mayenne des grottes préhistoriques tout à fait exceptionnelles. C'est, on dit, le plus beau site préhistorique de l'ouest de la France. Et il faut espérer que l'ouverture de ce musée permette de le faire connaître davantage. En tout cas, d'ores et déjà, ce qui est sûr, c'est que ça enrichira nettement la visite. Jusqu'à présent, on pouvait visiter deux grottes, la grotte Margot et la grotte Rochefort. Et pour l'avoir fait, c'était déjà très intéressant. Mais aujourd'hui donc, en plus, grâce à ce musée, on comprendra mieux la vie de nos ancêtres, les hommes préhistoriques qui vivaient à Sauges. Et on peut désormais aussi visiter virtuellement la grotte Mayenne Science, une grotte ornée de dessins, découverte en 1967, mais qui a quasiment toujours été fermée au public.
C'est vrai que c'est une grotte qui est difficile d'accès, hein. Seuls les spéléologues peuvent y accéder. Et elle est de toute façon extrêmement fragile, hein. On a des dessins qui datent de moins 25 000 ans à l'intérieur, donc c'est pas possible aujourd'hui de pouvoir la visiter. Donc la visite virtuelle, c'est vraiment un moyen qui permet de la visiter, et en plus de manière interactive, grâce à un joystick qui est mis à la disposition du visiteur.
Mais ceux qui aiment le concret seront aussi comblés. Le musée est très riche et surtout des pièces très rares y sont présentées.
Oui, exactement. On a le biface, hein, qui date de moins 400 000 ans. La plaquette au bouquetin, qui est une magnifique plaquette gravée avec une tête de bouquetin à la crinière hérissée. Donc on est assez content de pouvoir les présenter au public.
Les bouquetins qui attiraient probablement les chasseurs en Mayenne, mais aussi des rennes, des aurochs, des bisons et même des mammouths. En tout cas, ce sont autant de dessins qu'ils ont laissés sur les parois des nombreuses grottes du site en Mayenne, où longtemps on n'imaginait pas les trouver.
Oui, c'est très très rare, hein, de trouver un site préhistorique au nord de la Loire. Hein. Pendant longtemps, les préhistoriens disaient que les hommes ne pouvaient pas passer la Loire parce qu'il faisait très très froid tout au nord de la France. Et finalement, on avait quand même des cultures d'hommes préhistoriques ici sur Sauges qui partaient tous les ans et qui revenaient sur le site. Donc, ils suivaient les troupeaux, hein, la recherche de nourriture, et puis ils revenaient sur le site. Il y avait un microclimat, ils étaient dans un petit cocon un petit peu protégé comme ça dans la vallée. C'est un témoignage exceptionnel du passé. Hein.
Qui est très bien mis en valeur, notamment grâce à la réalité virtuelle, ce qui a plu à Rémi, 16 ans, l'un des tout premiers visiteurs du musée.
Bah, c'est vrai que l'ensemble, tout est assez bien expliqué, et le fait que aussi la vidéo, qu'elle soit interactive, et ben, c'était sympa. C'est vrai que vu qu'on ne peut pas y aller, bah, le voir en virtuel, c'est une bonne alternative.
Françoise, jeune retraitée, quant à elle, est sortie agréablement surprise du musée et même fière qu'il soit ouvert sur sa commune.
C'est fantastique, c'est sur Saint-Pierre-sur-Erve, on a découvert beaucoup de choses et c'est mon village, donc forcément c'est émouvant. Et puis c'est bien fait, il y a quelques petites erreurs au niveau de l'éclairage, mais sinon c'est splendide. J'ai beaucoup aimé la visite de la grotte Mayenne Science, parce qu'on y découvre des peintures dont j'ignorais tout, et ça aussi c'est très fort.
Effectivement, c'est très fort et c'est à votre porte, à 40 minutes à l'est de Laval, 50 minutes du Mans, 1h10 d'Angers et moins de 2h de Nantes. N'hésitez surtout pas à venir en Mayenne visiter les grottes de Sauges et donc ce tout nouveau musée de la préhistoire.
Des précisions de Samuel Pécaud, grand ambassadeur de son territoire. Merci Samuel et à la semaine prochaine. C'est la fin de cette hebdo région. Votre magazine d'actualité vous était présenté par la rédaction de RCF Anjou en partenariat avec les autres radios chrétiennes des Pays de la Loire. Je vous souhaite un très bon week-end à tous. On se donne rendez-vous la semaine prochaine, même jour, même heure. Merci de votre fidélité.